voici le journal de Catherine Dutube. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'Italie ne peut être le camp de réfugiés de l'Europe. Matteo Salvini, le très populaire patron de l'extrême droite italienne, devenu ministre de l'Intérieur, a annoncé hier un durcissement de sa politique migratoire. Annonce hier alors que la Tunisie déplorait, elle, un nouveau naufrage en Méditerranée, au moins 48 morts.
Benjamin Netanyahou entame en Allemagne une tournée de 3 jours au cours de laquelle il espère convaincre les Européens déterminés jusqu'ici à sauver l'accord sur le nucléaire iranien d'infléchir leur position.
Seul contre tous, les États-Unis se retrouvent isolés à l'issue du sommet G7 Finance au Canada. Dans son billet économique à la fin de ce journal, Jean-Marc Chardon évoquera les risques que font peser une guerre commerciale sur la croissance mondiale. Mais avant cela, nous parlerons de Carrefour. Le groupe doit annoncer aujourd'hui la fermeture de 227 magasins de proximité, reclassement pour la moitié des salariés. Inquiétude, vous l'entendrez, dans un magasin à Marseille.
Et puis dans une quinzaine de minutes, Catherine, la question du jour, comment le football est-il devenu la plus grande menace pour le cinéma français? On va parler de Canal+, et on sera en compagnie de l'économiste Olivier Bomsel.
Les recherches vont reprendre ce matin pour tenter de retrouver des migrants dont le bateau a fait naufrage samedi soir au large des côtes tunisiennes. Une embarcation surchargée prévue pour 75 à 90 personnes, mais les passeurs y avaient entassé près de 200 migrants à bord. 68 personnes ont pu être secourues, des Tunisiens, un Libyen et 7 ressortissants d'autres pays du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. 48 migrants ont par ailleurs été retrouvés morts, une soixantaine encore portés disparus. Selon l'Organisation internationale pour l'immigration, ce naufrage pourrait être le plus meurtrier en Méditerranée depuis celui du 2 février dernier, lorsque 90 personnes, des Pakistanais en majorité, avaient péri au large des côtes libyennes. Les précisions à Tunis de Maureen Mercier.
Selon les témoignages des rescapés, ils étaient près de 200 entassés à bord d'un bateau de pêche ne pouvant pas accueillir plus de 70 migrants. C'est à 12 km au large des îles Kerkena que le bateau en détresse a été repéré dans la nuit de samedi à dimanche. L'embarcation surchargée était sur le point de couler. Kerkena, située à quelques 300 km au sud de la capitale, est la principale plateforme tunisienne de départ de migrants vers Lampedusa. 160 km à peine séparent les côtes tunisiennes de l'île italienne. Sur les 68 personnes sauvées, 60 Tunisiens. Depuis un an, le nombre de jeunes Tunisiens qui tentent la traversée a littéralement explosé, dont une majorité de moins de 18 ans. En cause, la situation sociale et économique qui se dégrade en Tunisie. Alors qu'ils se situaient au 8e rang en 2017, les Tunisiens sont depuis le début de l'année la deuxième nationalité, après les Érythréens, à débarquer en Italie, du jamais vu depuis la révolution de 2011.
Et je le rappelle, 48 migrants sont morts dans ce naufrage au large des côtes tunisiennes alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe et l'Italie. Lui a promis une politique de bon sens pour éviter les naufrages, mais surtout pour limiter les arrivées de migrants dans son pays. Matteo Salvini, le nouveau ministre de l'Intérieur italien, chef de la Ligue, parti d'extrême droite, était en Sicile hier pour redonner les contours de sa politique migratoire. L'Italie et la Sicile ne peuvent être le camp de réfugiés de l'Europe, a-t-il déclaré. Il réclame un bon coup de ciseau dans l'accueil des 170 000 demandeurs d'asile actuellement hébergés à travers toute l'Italie, mais plusieurs voix rappellent que ces fonds, lorsqu'ils sont bien utilisés, créent des emplois pour des Italiens et redonnent vie à des zones rurales en déshérence. Le message politique radical de Matteo Salvini s'inscrit dans le contrat de gouvernement signé avec le mouvement 5 étoiles anti-système, un gouvernement populiste suivi à Rome par Antonino Gallofaro.
Basta avec la Sicile, camp de réfugiés de l'Europe. Avec Matteo Salvini, la politique migratoire de l'Italie sera bien plus sévère. En tournée électorale en Sicile hier, en vue des élections administratives de dimanche prochain, le nouveau ministre de l'Intérieur, patron de la Ligue, le parti d'extrême droite aujourd'hui au pouvoir, en a profité pour s'arrêter au centre d'identification de Pozzallo, dans le sud de l'île. Il ne compte pas assister sans rien faire, dit-il, au débarquement. Il appliquera donc la politique écrite dans le contrat de gouvernement signé avec le mouvement 5 étoiles, à savoir diminuer drastiquement les arrivées en Sicile par la mer en passant des accords avec les pays de transit et de départ et en expulsant de manière systématique les clandestins. Pour cela, les financements seront augmentés pour les renvois au détriment de l'accueil. Le Parti démocrate avait déjà durci la politique migratoire de la péninsule en passant notamment un accord avec la Libye. Le flux d'arrivées a fortement diminué. 13 430 personnes sont arrivées sur les côtes italiennes cette année, soit près de 78% en moins que sur la même période de l'an dernier.
Matteo Salvini, le nouveau ministre de l'Intérieur italien, qui est attendu demain à Luxembourg pour une réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne. Au menu, la révision de l'accord de Dublin qui oblige les migrants à déposer leur demande d'asile dans le premier pays européen où ils arrivent. Cet accord pénalise fortement l'Italie qui a vu arriver plus de 700 000 migrants depuis 2013. Eux ont fait campagne contre l'immigration et ils ont remporté hier les élections législatives en Slovénie. Les nationalistes du Parti démocratique slovène sont crédités de 25% des voix devant le parti de centre-gauche, lui à 12,6%. Mais ce score des nationalistes risque de ne pas leur suffire pour former un gouvernement de coalition, faute d'alliés au Parlement. La question migratoire en France, deux campements de réfugiés et de sans-papiers sont en cours d'évacuation ce matin à Paris, dans le 10e arrondissement, près du canal Saint-Martin, et dans le 18e, vers la porte des Poissonniers. Les personnes mises à l'abri feront l'objet d'un examen complet et approfondi de leur situation administrative par les services de l'État, indique la préfecture ce matin.
Vous écoutez les matins de France Culture, il est 7h06 et c'est la suite du journal de Catherine Dutu. L'aviation israélienne a frappé 15 objectifs du Hamas hier en riposte à des tirs de roquettes contre le territoire israélien parti de la bande de Gaza.
La bande de Gaza qui est contrôlée par le mouvement islamiste palestinien du Hamas, un regain de tension alors que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rencontre aujourd'hui la chancelière allemande Angela Merkel avant d'être reçue à Paris demain par Emmanuel Macron puis par Theresa May, la première ministre britannique. Ce sera mercredi. Benjamin Netanyahou vient en Europe avec un message, il faut être intransigeant avec l'Iran. Mais les récentes tensions avec la bande de Gaza risquent également de se retrouver au cœur des discussions. Marie Semelin.
C'est une tournée pour convaincre que Benjamin Netanyahou entame, mais pas sûr que quiconque change de position. Les trois leaders européens qu'il rencontre sont tous signataires de l'accord de 2015 censé éloigner l'Iran de l'arme nucléaire, des Européens qui tentent désormais de sauver ce qu'il en reste après le tonitruant retrait début mai du président américain Donald Trump. Vraie victoire pour le premier ministre israélien de voir son combat de toujours enfin rallié par une puissance mondiale. Benjamin Netanyahou s'appuie sur cette dynamique pour tenter de rallier à sa cause. Je discuterai avec eux des moyens de bloquer les aspirations nucléaires de l'Iran, a-t-il dit avant son départ. Il veut aussi évoquer l'expansion iranienne au Moyen-Orient, autrement dit l'installation de l'Iran et ses alliés sur le sol syrien, à la frontière avec l'État hébreu, un dossier indépendant pour les Européens qui n'ont pas la main dessus. Benjamin Netanyahou devra aussi défendre la position israélienne à Gaza après des accusations européennes d'usage excessif de la force par l'armée. Plus de 120 Gazaouis sont morts pendant des manifestations à la frontière avec Israël. Le contexte est celui de récentes escalades avec l'enclave qui interroge sur un possible nouveau conflit. Les dirigeants français, allemands et britanniques ont néanmoins rappelé récemment le droit d'Israël à se défendre face aux roquettes palestiniennes. Mais sur ce dossier, comme sur celui du nucléaire, Israël reste ferme sur ses positions et défend sa liberté d'action, quitte à agir seul pour assurer sa sécurité.
C'est aujourd'hui que le groupe Carrefour doit annoncer la fermeture de 227 de ses magasins de proximité, 227 sur 273, faute de repreneurs, notamment pour les ex-enseignes d'IA. Dans son plan de transformation, l'enseigne avait annoncé en janvier dernier son objectif de reclasser au moins la moitié des 2100 salariés. Carrefour propose aujourd'hui à tous les personnels concernés trois offres de reclassement. Mais l'inquiétude demeure dans les magasins. Reportage dans l'un des cinq Carrefour de Marseille. Avec Marie-Christine Loriol.
Sur le chemin de Sainte-Marthe, au pied des quartiers nord, c'est le supermarché, comme l'appellent les habitants, coincé entre un fleuriste et une pizzeria. À côté, les autres rideaux sont définitivement baissés. Bientôt, ce magasin fermera à son tour. Colette est à la caisse, à 5 ans de la retraite. L'employée ne cache pas son amertume.
C'est jamais facile de se faire virer. Hein. Après 18 ans de boîte, ce magasin, je l'ai ouvert. Je suis dégoûtée. Je l'ai ouvert et je vais le fermer. Ça fait mal, quoi.
Six autres salariés sont concernés, dont l'adjoint au chef de magasin. Mais avec sa casquette de délégué syndical FO, Reda Etzliman veut croire au plan de sauvegarde de l'emploi, même si le message a parfois du mal à passer.
D'aller à l'inconnu, c'est un peu compliqué. Choisir une formation, est-ce que je vais être reclassé en interne ou pas? C'est toujours du flou.
Inquiétude également pour les clients qui viennent essentiellement des cités voisines. Ici, le panier moyen est à 11 euros contre 15 pour l'enseigne concurrente la plus proche.
C'est moins cher. Ça doit être terrible pour nous. Hein. Obligé de prendre le bus pour aller un peu loin et de faire les courses. On a besoin de ce magasin en fait.
Car c'est aussi la destruction des liens sociaux dans ces quartiers déjà défavorisés, souligne la CGT qui appelle à un mouvement de grève aujourd'hui.
Cette future mine d'or en Guyane serait la plus grande de France, avec 7 tonnes de métal précieux extraites par an. Mais ce projet de la montagne d'or fait débat. Cette mine se ferait à proximité de la plus grande réserve biologique intégrale de France et au prix d'une déforestation conséquente, selon ses opposants. Une consultation publique a été lancée. On doit en connaître les résultats le 7 juillet prochain. Le député européen Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, est arrivé en Guyane hier, 5 jours pour rencontrer les associations opposées à ce projet. Yannick Jadot dénonce une catastrophe écologique à venir.
Pour extraire 1,6 g d'or, il va falloir à chaque fois une tonne d'explosifs, une tonne de cyanure. Donc ce n'est plus le projet Montagne d'or, c'est un projet qui va générer des montagnes et des montagnes de déchets extrêmement dangereux, un projet qui se fait au détriment de la forêt. Et un projet qui se fait grâce à une montagne de subventions publiques. 420 millions d'euros de subventions publiques pour créer 750 emplois. Donc on est d'abord dans un projet de destruction de la forêt, un projet extrêmement dangereux du point de vue des pollutions, notamment des pollutions au cyanure, et un projet finalement cynique puisqu'il s'agit dans un département qui est très souvent oublié par la République. Il s'agit de dire, vous avez des revenus très faibles, vous avez beaucoup de chômage, la seule perspective qu'on vous propose, c'est la destruction de votre forêt pour créer quelques emplois.
L'eurodéputé Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts, interrogé par Evan Le Bastard. La France qui veut relancer son industrie minière au prix notamment d'une montagne d'or controversée en Guyane. C'est un article à découvrir en une sur franceculture.fr. Le gouvernement lève aujourd'hui le voile sur la réforme de l'audiovisuel public avec la ministre de la Culture Françoise Nyssen en première ligne pour faire ses propositions de réforme donc de l'audiovisuel public, un cocktail d'économie et de réorganisation voulu par l'Élysée pour la fin de l'année et qui inquiète déjà des syndicats au sein de France Télévisions, de Radio France, France Média Monde, l'INA, Arte et TV5 Monde, soit quelques 17 000 salariés. L'État cherche à réaliser des économies entre 250 et 500 millions d'euros d'ici à 2022, selon la presse.